Radio Prague, les informations.
La Chambre des députés, le Conseil municipal de Prague rendent hommage à Václav Havel. Des personnalités importantes de la politique mondiale assisteront vendredi aux obsèques de Václav Havel, dont Nicolas Sarkozy. Et puis la police tchèque a retrouvé 5 tableaux d'Émile Fella volés en novembre. C'est par une séance spéciale que la Chambre des députés tchèques a rendu ce mardi hommage à l'ancien président de la République Václav Havel. La présidente de la Chambre, Miroslava Němcová, a remercié le président disparu et cité à cette occasion des extraits des discours prononcés par Václav Havel devant les députés tchèques. L'Assemblée a entendu également un enregistrement du dernier discours de Václav Havel, celui qu'il avait prononcé devant les députés en tant que président de la République. La séance est terminée par l'hymne national tchèque. Et puis à noter que les conseillers municipaux de la ville de Prague ont également rendu hommage à sa mémoire. Ils ont réaffirmé le rôle prépondérant de Václav Havel dans le combat pour la liberté et la démocratie. La direction de la ville de Prague réfléchit également à nommer une rue ou un endroit particulier de la capitale, d'après l'ancien président tchèque. Le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, participera mercredi au transfert de la dépouille de Václav Havel de l'église Sainte-Anne au château de Prague, de même qu'à son enterrement vendredi. Selon plusieurs informations non officielles, parmi les personnalités qui pourraient assister aux obsèques de Václav Havel, il y aura notamment le président allemand Christian Wulff ou la chancelière Angela Merkel, le président polonais Bronislaw Komorowski ou le premier ministre Donald Tusk, l'ancien président polonais Lech Walesa, la secrétaire d'État Hillary Clinton et l'ancien président des États-Unis Bill Clinton. Le président autrichien Heinz Fischer a déjà confirmé sa participation à la cérémonie, de même que le président français Nicolas Sarkozy qui fera le déplacement. La vente des ouvrages de Václav Havel connaît une forte augmentation suite à son décès. Certaines librairies ont connu une augmentation de 100%, mais le nombre insuffisant d'exemplaires freine leur vente. Certains des ouvrages de l'ancien président dramaturge ou qui le concernent sont en attente de réimpression ou de réédition. Cette augmentation des ventes a été notée dès lundi et concerne toutes ses œuvres, ses pièces de théâtre, les lettres à Olga, Sur le départ et bien d'autres encore. La police tchèque a annoncé lundi avoir retrouvé 5 tableaux du peintre cubiste tchèque Émile Fella dérobés le mois dernier dans une galerie d'art à Perutz, 50 km au nord-ouest de Prague, et interpellé 8 voleurs présumés. Leur valeur totale est évaluée à entre 50 et 80 millions de couronnes, soit 2 à 3,2 millions d'euros. Deux chefs de ce réseau soupçonnés aussi d'autres vols dans plusieurs musées et galeries tchèques risquent entre 5 et 10 ans de prison, indique la porte-parole de la police Jana Matohonova. Et puis à noter enfin que le chanteur d'opéra Václav Zitek est mort ce mardi à l'âge de 79 ans. Les performances vocales raffinées de ce baryton en avaient fait un interprète de talent des opéras de Bedřich Smetana notamment. Václav Zitek a chanté 25 ans en tant que soliste au Théâtre National de Prague et en 2007 il avait reçu le prix Thalia pour l'ensemble de sa carrière artistique. On finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Natales et elle, le ciel sera couvert, il neigera sur une grande partie du pays. En pleine, la neige pourrait être mêlée de pluie et les températures maximales ne dépasseront pas les 3 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Cette actualité reste bien entendu dominée par la disparition de l'ancien président Václav Havel. Comme lors de l'émission spéciale lundi, l'essentiel de notre émission lui sera donc de nouveau consacré. Nous entendrons tout d'abord un ancien dissident, Petr Hrůl, qui était aussi un des collaborateurs et amis de Václav Havel. Un ami qui n'était toutefois pas toujours d'accord avec les opinions et positions de Václav Havel. Et puis une fois n'est pas coutume, place sera faite ensuite aux réactions qui ont été les vôtres suite à l'annonce de la disparition de Václav Havel. Et puis dans la seconde partie de cette émission, nous entendrons un autre témoignage, celui cette fois de Zuzana Tomanova, qui a été pendant les 13 années de sa présidence l'interprète de Václav Havel pour le français. Très bonne écoute à toutes et à tous. « Parmi les collaborateurs et parmi les amis de Václav Havel figurait le journaliste et homme politique Petr Hůl. Homme de gauche, Petr Hůl n'était pas toujours d'accord avec les opinions de Václav Havel et n'approuvait pas sans condition sa politique qu'il le tenait pourtant en grande estime. Petr Hůl a bien voulu partager ses opinions sur l'œuvre et la vie de Václav Havel avec Radio Prague. Ses propos ont été recueillis par Václav Richter. Voici donc la première partie de cet entretien avec Petr Hůl.
Qu'est-ce que Václav Havel vous a apporté? Quel rôle a-t-il joué dans votre vie?
Oui, alors c'est un homme qui était de 5 ans plus âgé que moi, qui avait d'autres expériences de vie. Moi, lorsque j'ai fait sa connaissance, c'était en 1976, pendant le procès des musiciens de Plastic People of Universe. Et depuis ce mois de septembre de 76, nous sommes devenus amis. Et comme amis, dans une collectivité de quelques personnes, de 6 personnes, 10 maximum, nous avons rédigé le texte de la charte 77, dont Havel était l'auteur principal. Moi, je n'avais que de petits changements. C'était un homme qui était beaucoup plus concentré au pays dans lequel nous avons vécu, c'est la République tchèque. Il parlait pas les langues, sauf un peu anglais. Par contre, il était beaucoup plus impliqué dans les affaires artistiques, c'est-à-dire surtout la littérature, le théâtre, mais aussi la musique, et qui était appelée chez nous « underground culturel ».
Est-ce qu'il était pour vous une espèce de modèle dans la politique?
Et pas dans la politique, non. Sur le plan humain, beaucoup. Sur le plan de comment se comporter, comment discuter avec les gens, comment les unir. Mais sur le plan politique, moi, j'avais une ligne assez précise, exacte, qui était influencée par l'extrême gauche française de 68, tandis que lui, il se réclamait du socialisme, très vaguement. Surtout, il n'était jamais pro-capitaliste. Mais de l'autre côté, on s'est approché, lui et moi, moyennant Plastic People, c'est-à-dire le mouvement hippie, le mouvement des États-Unis de Flow People, le mouvement anti-autoritaire qui contestait la société super technique et trop manipulatrice, et bien sûr, c'était le mouvement anti-autoritaire. Et tandis que moi, j'avais des positions analogues venant du côté de la gauche traditionnelle, de la gauche marxiste, mais bien sûr il y avait aussi l'anarchisme, le maoïsme, etc. Lui, il est venu de l'autre côté, c'est-à-dire l'homme est libre et il faut qu'il soit libre. Et cette liberté exprimée par les libéraux de gauche, alors c'était, disons, le point où on se rencontrait.
Au moment de la chute du communisme en 1989, Václav Havel n'était pas le seul dissident tchèque engagé dans le combat contre le régime arbitraire. Pourquoi c'était finalement lui qui est devenu personnalité principale de la révolution du velours et futur candidat à la présidence de la République?
Dans les discussions qu'on a eues ici à Prague et à Bratislava, il n'était pas seul auquel on pensait qu'il pourrait devenir président de la République. Mais finalement, c'était lui qu'on a choisi parce que il était un leader spirituel de la charte 77 et de tout le mouvement, tandis que par exemple Alexandre Dubček était un peu à côté, vivait dans un isolement relatif, et il y avait encore d'autres candidats dont on a parlé à l'époque. Je pense qu'il était acceptable pour tout le monde, ou presque. Surtout, il cherchait pas la vengeance, il a fait la propagande pour que pour qu'il n'y ait pas des actes sanglants. Il a vraiment fait un dialogue avec les représentants du pouvoir d'une manière très très raisonnable, mais de l'autre côté, il était décidé de continuer dans le chemin vers la démocratie et surtout la liberté, des libertés personnelles, ce qui était très important.
Et puis, vous avez été plusieurs à nous faire parvenir vos réactions et à nous faire part de votre tristesse suite au décès donc de l'ancien président Václav Havel. Sa mort représente une grande perte pour le peuple tchèque, mais aussi pour tous les amoureux, comme vous, de la République tchèque, et plus largement pour tous les Européens épris de courage et de droiture. Jean-Sébastien Letton.
Vous avez été plusieurs à nous faire parvenir vos réactions et à nous faire part de votre tristesse suite au décès de l'ancien président Václav Havel. Sa mort représente une grande perte pour le peuple tchèque, mais aussi pour tous les amoureux, comme vous, de la République tchèque, et plus largement pour tous les Européens épris de courage et de droiture. Avec sa mort, c'est toute une époque qui disparaît, mais aussi toute une génération pour laquelle l'engagement politique signifiait davantage qu'une prise de position. Mais Václav Havel n'aura pas tout à fait disparu, tant que son héritage restera présent à notre esprit et demeurera une source d'enrichissement pour la politique européenne. Aujourd'hui, plus que jamais, sa sagesse et sa modération doivent éclairer nos actions. Merci à Claire Le Bridchep pour ses condoléances. Merci également à Bruno Barande, ancien membre de l'association Olga Havel France, pour son message et peut-être que le souhait dont il nous avait fait part en 2005, qu'une rue de la ville de Saugues en Auvergne soit baptisée Václav Havel, se réalisera bientôt. Remercions aussi Hervé Brien, qui nous fait part de son émotion face à la perte de celui qui, je cite, « était un homme politique et non pas un politicien, comme hélas nous en rencontrons trop souvent dans nos sociétés modernes ». Merci à Christian Guibaudeau, qui nous écrit une phrase que nous ne pouvons qu'approuver, je cite, « Vraiment, Václav Havel était le symbole de la liberté tchèque, un symbole aussi pour tous les hommes libres, une grande perte pour l'humanité ». Anne-Marie Dussel salue le dramaturge qu'il était et nous écrit, je cite, « Il a démontré que le pouvoir ne corrompt pas ceux qui savent rester fidèles à leurs convictions, malgré toutes les épreuves, et qui sont profondément honnêtes et désintéressés. De tels hommes sont rares. » Malheureusement, notre constatation est la même. Saluons aussi Nicole Letovski qui nous a fait part de sa douleur. Merci à tous de nous écrire et de penser à nous. Nous ne pouvons que vous inviter à lire et à relire les œuvres de Havel, afin que son action ne s'éteigne pas avec sa mort.
Et voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre émission. Notre émission se poursuit maintenant avec le témoignage de Zuzana Tomanova. Après une carrière parfois difficile sous le communisme, Zuzana Tomanova est devenue, quelques mois après la révolution de velours, l'interprète officielle du nouveau président Václav Havel pour le français. Zuzana Tomanova a d'abord raconté au micro d'Alexis Rosenzweig comment elle en était arrivée là.
Panorama.
Panorama.
Au départ, j'étais envoyée par une agence pour la première mission. Et plus tard, bon, il a été content de mes services et il m'a gardée. C'est comme ça. Il a eu confiance en moi.
Vous semblez ne pas le regretter. Vous m'avez dit tout à l'heure hors micro que c'était une des glorieuses périodes de votre vie active.
Ouais. Je garde un souvenir ému et reconnaissant de cette période glorieuse, héroïque dirais-je même. Parce que c'était quelqu'un de formidable qui a toujours tenu une ligne, disons, en faveur du pays. Il a fait énormément de choses pour le bien de mon pays et bon, je ne peux qu'avoir du respect pour lui. Et tout ce qu'il disait, ça valait le coup d'être traduit.
Je crois que dans un documentaire que j'ai vu récemment, on voit les premières visites de politiciens ou de politiciennes, même françaises, qui défilent à Prague. Il y a notamment Ségolène Royal, toute jeune, et on vous voit dans ce documentaire, alors qu'il essaie de faire quelques envolées lyriques et de parler peut-être un langage un peu plus littéraire parce qu'elle rencontre le président dramaturge. Ça doit être presque cocasse, des fois, les choses qu'on doit traduire à Václav Havel.
C'est vrai. C'est vrai. Mais lui, il avait, ça je peux peut-être dire, chaque fois qu'il donnait une interview et que je devais la traduire, alors souvent, les questions se répètent, vous le savez, parce que tous les journalistes veulent savoir la même chose. Bon, alors il me disait, mais Madame Tomanova, vous pouvez le dire à ma place, vous le savez mieux que moi maintenant. Bon, ça peut-être je peux le dire.
Vous avez des souvenirs qui sont meilleurs que d'autres, des anecdotes?
Évidemment, mais on n'a pas le droit de les raconter.
Évidemment, puisque c'est des secrets d'État pour certains. Comment ça se passe d'ailleurs au niveau du secret? Est-ce que c'est à chaque contrat qu'un interprète signe ou c'est sur la durée? Par exemple, quand on est l'interprète officiel de Václav Havel, on a interdiction formelle de publier même après quelque information que ce soit?
C'est tacite, c'est pas quelque chose de... Bon, il y a ce qu'on appelle maintenant l'autorisation de NBU, bon. Mais avant, bon, il est évident, il y a une éthique du métier qui veut qu'on ne rapporte jamais le contenu de ce qu'on a traduit. On ne rapporte jamais. Une interprète qui rapporte ses mémoires, bon, c'est une mauvaise interprète. On ne fait pas ça. Et quand on enfreint cette loi, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait plus sollicité.
Une petite anecdote sur le président Havel, je crois que c'était peut-être juste avant ou juste après la partition de la Tchécoslovaquie.
C'était beaucoup plus tard, mais c'était un journaliste qui était venu l'interviewer et puis lui avait posé une question sur Mečiar. Et M. Havel a répondu en tchèque que M. Mečiar souffrait de stihomam. Stihomam, c'est un terme en tchèque, c'est un terme pas latin, pas technique, pour la paranoïa, c'est-à-dire la folie des persécutions, la manie des persécutions. Et bon, j'ai traduit comme M. Mečiar et parano. Bon, j'ai voulu bien faire, mais je crois que c'est exactement ça, sur le plan stylistique aussi, pas tout à fait technique. Bon, et le journaliste l'a interprété comme M. Mečiar est paranoïaque et ça a provoqué un scandale international. La Slovaquie a protesté, etc., etc. Et je dois dire que M. Havel m'a jamais reproché. Souvent, on dit que c'est de la faute de l'interprète, il a mal traduit. Jamais. Il m'a jamais dit un seul mot de reproche. Parce qu'il savait très bien qu'il l'avait dit lui-même. Beaucoup d'autres hommes politiques tchèques auraient dit que ça avait été mal traduit. M. Havel, jamais.
On a quand même l'image, souvent dans les médias, notamment les médias français, de Václav Havel, homme timide, un peu gauche, mais parfois on sent que c'est pas tout à fait de la vraie timidité.
Non. Il peut être charmant et plein d'esprit. Bon, ça, j'apprécie énormément son esprit.
Est-ce qu'on rigolait bien à l'époque au château?
Ah oui, c'était une excellente ambiance. Tout le monde l'aimait. Bon, il était entouré de personnes qui l'avaient choisi. Bon, alors, tout baigné. Une excellente ambiance. Allègre.
Vous étiez aussi, alors pendant l'ère Havel, mais aussi après, longtemps après, au cœur des relations franco-tchèques. Puisque je sais que vous ne pouvez pas révéler de secret d'État, est-ce que vous pouvez me livrer votre sentiment quand même sur le fait, est-ce que les Français et les Tchèques se comprennent d'après vous?
Je crois qu'ils se comprennent très bien. Il y a des atomes crochus entre les Français et les Tchèques, parce qu'on a le même sens de l'humour, je dirais. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est moins florissant qu'il y a 10 ans environ.
On a quand même un peu l'impression, et c'est ce que les Tchèques disent à Prague, que les Français se comportent de manière arrogante. Est-ce que c'est un cliché ?
Pas tout à fait, non. Les Français peuvent être très arrogants. Mais pas tous, hein. Bon, ben, y a des personnes arrogantes parmi les Tchèques aussi. Mais je crois que les Français ont un petit peu la fibre coloniale. Parce que un petit peu cette condescendance à l'égard de nous autres, citoyens de deuxième catégorie, qui avons vécu pendant si longtemps sous le joug communiste, je trouve que c'est ça, un petit peu. Ça, je l'ai ressenti moi-même.
Je voudrais qu'on, puisque le temps presse, qu'on parle de l'évolution de votre métier. Est-ce que l'évolution du métier depuis ces dernières années vous paraît aller dans le bon sens ?
J'appellerais ça le crépuscule du métier. Je crois que maintenant, on s'approche de la fin du métier, parce qu'il restera quelques organisations internationales qui recruteront encore des interprètes, mais l'anglais risque de devenir lingua franca de l'Europe. Le mauvais anglais, pas le bon anglais, mais celui qu'on baragouine, hein, bon. Et tout le monde apprend maintenant des langues à droite et à gauche. Je ne pense pas qu'il y ait... Si j'étais jeune aujourd'hui, je ne choisirais plus ce métier, qui m'a permis de vivre des moments fabuleux, mais je choisirais un autre métier, un vrai. Parce que là, ici, vous interprétez les idées des autres, vous n'avez jamais le droit d'exprimer les vôtres. C'est un peu frustrant, je dois dire. Parce que souvent, j'ai eu envie de dire ce que je pensais, et je n'avais pas le droit.
Alors, dernière question, Zuzana Tomanova, si vous deviez choisir un autre métier aujourd'hui, vous feriez quoi ?
Criminaliste ou pédiatre ou architecte des jardins. Voilà, trois métiers qui me plaisent autant l'un que l'autre.
Merci beaucoup.
Nous vous proposons maintenant un extrait de notre émission spéciale du 24 décembre. Elle sera consacrée à Bohuslav Hajnek, une des personnalités les plus originales du monde artistique tchèque du XXe siècle. Né en mai 1892 et décédé il y a 40 ans de cela, en septembre 1971, Bohuslav Hajnek était graveur, poète et traducteur d'œuvres littéraires françaises et allemandes. Hajnek a été intimement lié au petit village de Petrkov, situé dans les hauteurs tchéco-moraves, là où il a vécu aux côtés de sa femme française, le poète Suzanne Renaud, et aux côtés de ses fils Michel et Daniel. C'est le manoir familial et ses environs qui ont inspiré presque toutes ses œuvres dans cette émission que nous avons préparée à l'occasion de la grande rétrospective de Bohuslav Hajnek, organisée jusqu'au 29 janvier prochain à la Galerie de la Ville de Prague. Magdalena Rosinkova et ses invités évoqueront entre autres le destin du couple Hajnek, le rayonnement des deux artistes en France grâce à l'association Romarin, les traduction en français de l'œuvre poétique de Hajnek, qui, pour emprunter les mots du traducteur Xavier Galmich, est, je cite, un art qui parle peu pour parler fort. Récemment, les éditions Petrkov ont publié en édition bilingue Écailles de poisson, un recueil de poèmes en prose de Bohuslav Hajnek, traduit en français donc par Xavier Galmich. Il nous en dit plus.
On peut dire qu'il y a dans la poésie de Hajnek, c'est de la poésie. Deux recueils de poésie en prose qui sont les recueils du début, et ensuite toute la fin, c'est-à-dire presque l'intégralité de la carrière poétique, si on peut dire, c'est de la poésie régulière. Et en fait, je l'ai lu avec cette sensation de lire presque des formules magiques, hein, parce que l'expression poétique de la poésie régulière chez Hajnek est très dense, très resserrée, et on a l'impression très, très mélodieuse, et on a l'impression vraiment que c'est à la limite de la formule magique. Et j'ai eu peur, tout simplement, de me lancer dans cette traduction-là, parce que je me suis dit que c'était trop, et que j'allais commencer humblement par les débuts avec de la poésie en prose. Et donc j'ai traduit successivement Le serpent sur la neige et Ses écailles de poisson. Peut-être que c'était un mauvais calcul, parce que finalement, c'est une poésie qui est aussi très difficile. Mmh. Parfois, je n'en prenais rien du tout, et donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je pense plus sérieusement, parfois, des difficultés lexicales, c'est-à-dire que Laïnec, c'est un peu presque une manie littéraire, affectionne certaines catégories lexicales, des noms d'oiseaux, des noms de botanique, etc. Et aussi, je crois, il y a quelque chose de régionaliste chez lui. Il emploie des mots qui ne sont pas forcément les mots les plus courants du tchèque standard. Mmh. Et pour ça, j'ai été même pas secondé. Enfin, celui qui a fait le travail, c'était Michel Reinet, qui est un excellent bilingue, d'une part, et un excellent botaniste, d'autre part. Donc, on a trouvé des équivalents un peu rares en français qui, je crois, ne sont pas forcément compréhensibles par le lecteur, mais en tout cas, qui donne cette coloration un peu spécifique, un peu décalée. Et puis, alors, ce qu'il y a de remarquable dans ce recueil, c'est qu'il est en fait très, très composite du point de vue esthétique, c'est-à-dire un peu de tout. Il y a une poésie vraiment expressionniste, assez hard, je dirais, qui dérange, qui est même parfois un peu repoussante. Et puis, il y a une poésie intimiste, du registre de la presque de la prière ou de la méditation. Et en fait, je n'ai pas aimé ce recueil pendant longtemps parce que je le trouvais trop hétérogène. Et alors que Le serpent sur la neige est au contraire beaucoup plus monolithique d'une certaine façon. Et donc, en fait, j'ai beaucoup traîné les pieds pour le finir et j'ai mis très très longtemps à le finir. Et le résultat est plutôt surprenant. C'est qu'une fois que le livre est fait, qu'on le lit d'un bloc, ça marche. C'est quelque chose de très bariolé, hein, ça va dans tous les sens, mais je trouve qu'il y a une vraie voix poétique qui s'élève, donc peut-être même en français.
Et précisons encore que l'émission du 24 décembre sera accompagnée de poèmes de Borislav Reinek et de Suzanne Renaud, des poèmes mis en musique par Karel Vepršek. On se quitte avec la chanson intitulée Radost. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague en français. Ahoy.
Konečně skončí ta výsměšná step, kde cesty nevyda, chodím jak slepý a prah. Usnu a přiletí radost jak pták, srdce mi otevře, aniž zvím jak ohněm. Zabije hada v něm, obludu zavěsí, zčernalou. Na halu s vlhkem zálesí zoufání. A v ranách duše mé zaskví se září, čekání barvínky slzami svlaží zpívají.
надеем, и в этих дарах все надеем, все становится.